Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Ils sont trois, les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. Ils sont en première ligne face à la menace russe. Alors ce matin, nous vous proposons de découvrir cette région qui n'est pas très bien connue en France, alors même qu'elle est profondément attachée aux valeurs européennes. Quatrième épisode donc de notre série sur l'Europe, avec un focus particulier sur la Lituanie en compagnie d'Emilia Pundziūtė-Galois. Bonjour.
Bonjour.
Emilia Pundziūtė-Galois, vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales, chercheuse à l'université Vytautas Magnus et enseignante à Sciences Po. Alors, ces trois pays, leur histoire est intimement liée à leur géographie, bien sûr. Présentez-les-nous.
Voilà, donc les trois pays baltes, Estonie, Lettonie et la Lituanie, se situent au nord de l'Europe, sur la côte de la mer Baltique. Et au sud, vous avez la Pologne et au nord, vous avez Finlande et la Russie. Et donc l'Estonie qui est le plus au nord avec la capitale Tallinn. Le pays de milieu, c'est la Lettonie avec la capitale Riga. Et le pays le plus au sud, c'est la Lituanie avec la capitale Vilnius. Et historiquement, ce sont les pays qui sont européennes. Les langues baltes sont les langues d'une branche indo-européenne, mais une branche séparée. Ce sont les langues uniques. Le letton et le lituanien, ce sont les deux langues baltes qui restent. L'estonien se rapproche plus au finlandais. Historiquement, donc Estonie et Lettonie avaient été sous influence plutôt allemande. La ville de Riga était la ville hanséatique et il y avait cet ordre teutonique qui était installé dans ce territoire-là. La Lituanie était beaucoup plus proche de la Pologne, donc à partir du Moyen-Âge, elle a été alliée avec la Pologne. C'était la grande duché de la Lituanie qui a fondé une république de deux nations avec la Pologne dans le 15e siècle. Et donc c'était un pays, la Lituanie est très fière d'être un des plus grands pays européens de Moyen-Âge qui était de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Voilà.
Et le troisième pays donc que l'on va particulièrement évoquer aujourd'hui, la Lituanie, est directement exposée bien sûr à la Russie aujourd'hui, avec des relations très compliquées avec la Russie.
Oui, comme tous les trois pays baltes, c'est comme ça. Donc la particularité géographique de la Lituanie est aussi celle que du côté occidental, vous avez un enclave de Kaliningrad. C'est l'ancienne partie de Prusse.
L'ancienne Königsberg.
Justement, et qui a été occupée par l'Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale. Et la ville de Königsberg a été rebaptisée Kaliningrad. Donc c'était une région qui était très militarisée pendant la guerre froide et maintenant elle est remilitarisée dans le contexte actuel. Et voilà, il y a eu toujours cette tension de la Lituanie qui s'interpose entre la Russie continentale et cette enclave de Kaliningrad.
Aujourd'hui, la Lituanie est une terre d'accueil pour les dissidents russes et biélorusses.
Oui, absolument. Donc, Biélorussie, c'est un pays voisin de la Lituanie. Et depuis un moment déjà, Vilnius, surtout la capitale de la Lituanie, accueille une grande diaspora biélorusse, des opposants biélorusses. Depuis 2005, Vilnius accueille l'université humanitaire de Minsk qui a été expulsée par Loukachenko.
Et donc, il y a... Biélorussie.
Justement. Et il y a un réseau de la diaspora biélorusse qui est présente en Lituanie depuis un moment. Et à partir de 2020, les élections fraudées présidentielles en Biélorussie, où Svetlana Tikhanovskaya, comme une opposante principale, a été rejetée de pays. Elle se retrouvait à Vilnius et c'est là où est basé son gouvernement en exil biélorusse. Pareil pour les opposants russes qui fuient la Russie depuis que l'autoritarisme de Poutine s'est renforcé. Il y a des différentes associations de l'opposition russe qui sont basées à Vilnius. Il y a le forum de Russie libre qui se passe là régulièrement. Voilà. Et puis, depuis la guerre russe en Ukraine, Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont aussi fui vers nos pays.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que ces pays baltes ont une identité commune ? C'est une identité européenne ? C'est une identité qui ne se reconnaît pas dans le bloc slave ? Ou alors c'est une identité qui ne se reconnaît pas dans la Russie telle qu'elle est politiquement aujourd'hui, Emilia Pounzioute-Gallois ?
Oui, il faut souligner ce que vous dites, que ce ne sont pas des pays slaves, ce ne sont pas des pays qui appartiennent à ce monde russe qu'on soit selon le discours russe. Et ce sont les pays qui veulent justement affirmer leur identité plus européenne et autre slaves, justement, ce sont des pays baltes. Et historiquement, ils ont une histoire, surtout dans les années, dans le 20e siècle, qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'ils fondent leur État moderne en 1918. Ils sont occupés, tous les trois pays baltes sont occupés par l'Union soviétique en 1940, et tous les trois sortent de l'Union soviétique en 1990. Et cette lutte pour la liberté dans les années 90, elle était coordonnée d'une manière assez importante entre les trois pays. Et aussi diplomatiquement, politiquement, il y a beaucoup de coordination entre les trois. Donc c'est pour ça qu'on parle des trois pays baltes. Mais néanmoins, il y a des différences que tous les pays veulent affirmer sur différents points.
Bon, une culture commune, une culture à la fois politique et une mémoire historique, parce que c'est très important pour cette partie-là de l'Est, de l'Europe et de la Middle Europa aussi, de revenir sur les secousses et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, effectivement. Donc, le mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie. C'est une histoire très mouvementée. Les pays baltes font partie de ce que Timothy Snyder appelle des bloodlands, donc
les terres de sang.
C'est ça. Donc une partie géographique où qui a été envahie par plusieurs puissance. Donc c'est une histoire très douloureuse et aussi une histoire de l'occupation soviétique. Donc on rappelle aujourd'hui, les pays baltes insistent que c'était une occupation, on voulait pas être membre de l'Union soviétique et on a voulu sortir absolument, et il y a eu beaucoup de une grande partie de population qui a été déportée par le régime de Staline. Il y a eu une répression terrible. Donc l'Europe et l'Occident, c'était un peu le rêve des Baltes, le rêve de la liberté, de la démocratie. Et c'est pour ça que ces pays sont très, très fortement impliqués dans la défense des valeurs démocratiques aujourd'hui.
Et donc, il y a eu le traumatisme vis-à-vis de l'URSS et donc de la Russie communiste. Avec les nazis, comment les choses se sont-elles déroulées pour les pays baltes ?
Pas bien. C'est-à-dire que c'était pareil, c'était une occupation et malheureusement, il y a eu une grande population juive qui était dans les trois pays baltes et qui a été exterminée à cause de cette occupation. Et
il faut dire que ces lieux-là, donc les pays baltes, notamment Vilnius, par exemple, puisque on s'intéresse particulièrement à la Lituanie, était une ville extrêmement importante pour les juiveries d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale.
Effectivement, il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont d'origine lituanienne juive, qui sont aussi très connues en Europe, par exemple comme un sculpteur Lipschitz, comme Levinas, un philosophe, qui sont issus de cette communauté très dynamique des juifs lituaniens que nous avons malheureusement perdu pendant la guerre.
Mais alors, comment la Lituanie en particulier vit-elle la période actuelle? Est-ce qu'elle a la sensation de revivre, non pas évidemment du tout la Seconde Guerre mondiale, mais de retrouver des contextes historiques qui se rapprochent finalement de cette histoire du XXe siècle?
Absolument, il y a un travail historique à faire, c'est-à-dire que pendant l'ère soviétique, on n'avait pas le droit à notre propre histoire. C'était l'histoire soviétique et donc les Lituaniens, à partir des années 90, ils font cette recherche, ils s'intéressent à ce qui s'est passé, ils cherchent les raisons. Mais il y a aussi un très gros travail qui est fait sur les effets de l'occupation soviétique et sur le mémoire de l'occupation.
Et oui, pour dire à quel point c'est le cas, dans quelques instants, Emilia Pundziūtė-Galois, nous serons en duplex avec Simonas Kéris, le ministre lituanien de la Culture. Et il faut dire que les autorités russes ont placé ce ministre et la première ministre estonienne sur une liste de personnes recherchées parce que Moscou les accuse d'avoir autorisé le démantèlement de monuments aux soldats soviétiques datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour dire que cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ça n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très incarné et qui a des conséquences politiques aujourd'hui encore. On en parlera dans une vingtaine de minutes. Je rappelle, Emilia Pundziūtė-Galois, que vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante à l'université Vytautas Magnus et à Sciences Po. 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
France Culture poursuit sa série Être européen avec aujourd'hui les pays baltes en général, la Lituanie en particulier. Nous sommes en compagnie d'Emilia Pundziūtė-Galois, docteur en sciences politiques, chercheuse à l'université Vytautas Magnus et enseignante à Sciences Po. Et nous sommes en duplex avec Simonas Kéris, ministre lituanien de la Culture. Bonjour Simonas Kéris.
Hello.
Bonjour.
Vous êtes traduit ici même par Maître Zlotowski. Simonas Kéris, j'ai évoqué cette accusation étrange. Les autorités russes vous ont placé sur une liste de personnes recherchées parce que Moscou vous accuse d'avoir autorisé le démantèlement de monuments aux soldats soviétiques datant de la Seconde Guerre mondiale. Et le Kremlin considère cela comme une insulte à l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Racontez-nous.
This is a good improvement.
C'est une question. C'est un fait que l'histoire culturelle, la mémoire, ces choses font partie aussi de la guerre. C'est un bon rappel. Et tout d'abord, vous essayez de convaincre votre marché local, vos propres gens, votre propre peuple, de créer des raisons, ainsi de suite, pour témoigner des raisons de leur guerre contre l'Ukraine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la Russie a toujours dans sa législation des articles, et celui-ci en particulier, qui protège la période soviétique, pour être plus exact, la période de l'occupation soviétique. ces monuments à travers le monde entier, dans d'autres pays, je veux dire, dans les anciens territoires de l'Union soviétique. Mais la chose la plus étrange, c'est comment en Lituanie, un pays souverain et indépendant, comment est-ce que la Lituanie peut-elle exister et être régie par une loi d'autres pays, et dans ce cas précis, la Russie? Donc c'est un non-sens, tout d'abord. Et nous parlons non seulement d'art, d'une belle sculpture, non, nous parlons de science, de l'impérialisme rampant. C'est une bonne amélioration que cet ancien territoire, pense la Russie, les anciens territoires de l'Union soviétique sont dans leur zone d'intérêt, que ce ne sont pas des pays indépendants. C'est une erreur. Et c'est une erreur de parler de choses qui sont liées à la Russie. C'est quelque chose de très compliqué, parce que cela est basé sur des mensonges purs et simples, sur la falsification de faits historiques. Et me mettre sur cette liste de personnes recherchées, ça montre à quel point, pour les Russes, c'est important de construire cette histoire. Mais ce n'est pas une histoire vraie.
Mais alors, justement, pour que l'on comprenne bien, Simona Skeris, vous qui êtes ministre de la culture lituanien, est-ce que ça signifie que vous avez une mémoire qui est une mémoire opposée à celle donc du peuple russe? Est-ce que vous considérez, par exemple, que durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez à la fois été victime des nazis et des soviétiques?
Pour parler des soviets,
on ne parle pas d'une période qui est terminée. Nous parlons des efforts continus pour étendre cette idéologie, pour étendre cet impérialisme. Il est important de comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que sont des faits historiques. Je mets l'accent sur le fait que nous parlons surtout de la période soviétique, lorsque la Lituanie appartenait à une sorte d'un autre État. Enfin bref, c'était une occupation. La Lituanie a vécu dans un tunnel sombre pour plus de 50 ans. Et vous pouvez imaginer ce que la Lituanie ou d'autres pays de la zone baltique peuvent ressentir en vivant dans ce tunnel sombre pendant un demi-siècle. Mais nous connaissons les faits. Lorsqu'on parle de lieux où des soldats sont enterrés, soldats victimes de guerre, il y a des conventions de Genève, il y a d'autres documents internationaux, des lois internationales, qui sont véritablement dédiés à ce sujet. Mais ce n'est pas seulement la Russie. On peut parler, par exemple, de soldats de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres pays, l'Allemagne, la France, la Pologne, et pas seulement des Russes. Donc, ils tentent de mélanger deux sujets complètement différents. Mais ils le font de façon très maligne et ils tentent de convaincre les autres qu'ils protègent quelque chose, une mémoire. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est tenter de construire une histoire selon la pensée de Poutine pour la Lituanie et pour d'autres pays du monde libre. Il est très important de dire la vérité et de nommer les choses pour ce qu'elles sont exactement. Et ce n'était pas la période soviétique, c'était l'occupation soviétique. Ça a causé beaucoup de morts, d'exil. Nous avons perdu des intellectuels, des artistes, des gens de la sphère culturelle. Donc c'est très important de parler de la vérité, particulièrement dans cette atmosphère de guerre en Ukraine, parce que, comme vous en souvenez, ce que Poutine a fait, il a commencé aussi à partir de la culture, d'objets culturels, de sujets culturels. Et Nous devons être vraiment très en éveil et comprendre ce qui se passe.
Et
parfois, on est un peu paresseux de parler de cela, de parler de démocratie en étant assis dans nos sur nos canapés, tout ça, mais... La culture, c'est important. Il est impossible de construire des valeurs sur des mensonges. Et ce ne sont pas des valeurs dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose de bien, c'est une amélioration. Oui, la culture et la politique, ce sont des choses différentes. Mon exemple, de mon inscription sur cette liste de personnes recherchées, la culture et la politique ont beaucoup de choses en commun. Et particulièrement lorsque l'on parle de pays tels que la Russie qui est un agresseur.
Justement, Emilia Pounziouté, gallois, on en a parlé il y a quelques minutes, on voit vraiment à quel point la mémoire, en particulier la mémoire du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale, percute l'actualité la plus immédiate.
Oui, et c'est aussi ce processus qui est déclenché en Lituanie et dans les pays baltes en général aujourd'hui. Il est lié au fait que le mémoire de cette Seconde Guerre mondiale, elle est différente que celle que les Russes ont. Pour nous, le 9 mai 45, c'était pas le jour de la victoire, c'était le jour d'une occupation continue. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment envie de voir tous ces monuments parsemés sur notre territoire qui nous rappellent cette histoire douloureuse? Oui, donc les morts, ils sont... qui ont perdu leur vie dans la guerre, ils sont respectés, il y a les cimetières, etc. Mais le problème avec la Russie, c'est qu'ils veulent construire ces grands monuments qui sont visibles avec les étoiles rouges, etc. Et on se demande si c'est vraiment quelque chose qu'on veut symboliquement aussi avoir sur notre territoire. On voit ça comme un peu une partie de politique, de montrer comme si c'était le territoire où la Russie a été présente. Et donc, comme je vous ai dit, l'idée et la volonté des pays baltes de démontrer que notre culture est autre. Elle n'est pas russe et nous sommes européens et nous avons envie de voir notre espace public autre chose.
Simona Skéris, est-ce que vous vous sentez personnellement, mais aussi collectivement menacée par la Russie? Est-ce que vous imaginez être victime d'une invasion de la même nature que celle dont l'Ukraine est l'objet aujourd'hui?
We have to be awake.
Il faut être en éveil. Et c'est un moment spécial pour la Lituanie, pour l'Ukraine et les pays baltes, parce que l'avenir est dans nos mains. Notre expérience, nous avons de l'expérience. Nous avons longtemps vécu à proximité de l'agresseur. Nous avons une frontière avec la Bélarus. Et nous devons faire face à l'histoire des migrants il y a quelques années. Donc, nous savons quelle est la situation. Nous la connaissons très bien. Nous pouvons faire un pronostic sur la façon dont l'agresseur pourrait agir. Et le rôle des pays baltiques, qui sont des pays d'expérience dans cette vie aux côtés d'un agresseur, est très très importante, cette expérience, pour d'autres parties de l'Europe, afin que ces parties comprennent ce qu'il se passe. Parce que cet impérialisme rampant avance, et cet impérialisme rampant utilise ces monuments de l'époque de l'occupation soviétique exactement comme une route pour aller de l'avant. Et si vous n'arrêtez pas l'agresseur, si vous n'arrêtez pas cet impérialisme rampant, par exemple, maintenant, ils ont pris, par exemple, la partie orientale de l'Ukraine, ils l'ont déjà occupée, eh bien, nous devons comprendre que Poutine va aller à l'étape suivante. Et il faut absolument tout faire pour montrer que c'est impossible pour lui d'aller de l'avant. C'est un excellent exemple. Par exemple, ce qui s'est passé à Vilnius cet été, à 25 kilomètres de la frontière de l'agresseur. D'autres choses. C'est un bon exemple aussi pour la France et la Lituanie. Psychologiquement, il semble que nous sommes dans des parties différentes de l'Europe, mais la distance, c'est quelques heures de vol seulement. Donc nous sommes plus liés et plus proches que nous le pensons. Et toute cette situation et ce danger pour une Europe libre et démocratique et en paix, mais cette distance est très proche. Et il faut prendre cette situation de ce qui se passe en Ukraine comme quelque chose qui a un sens très important pour comprendre quelles sont les actions que nous devons entreprendre pour arrêter l'agresseur et ne pas vivre avec une histoire faussée de l'histoire. Il faut comprendre, il faut vraiment regarder ce qu'était l'histoire au Moyen-Âge, par exemple, lorsque le grand-duché de Lituanie avait un territoire qui allait de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Regardez l'histoire de Kiev, lorsque Kiev était un centre, une grande ville en Moscou, et que Moscou n'était qu'un marécage. Il faut comprendre que cette histoire européenne, cette tradition européenne, cette façon européenne de penser, de réfléchir, de construire des valeurs sont très différentes et ces choses-là sont en danger. Et grâce à Dieu, nos frères ukrainiens sont en train de lutter, de se battre et d'arrêter cet impérialisme rampant à ce moment ici, dans la partie orientale de l'Ukraine.
Simona Skerris, on a bien compris donc l'opposition qu'il y a aujourd'hui entre votre pays et la Russie. Vous êtes ministre lituanien de la culture et il y a une portion de la culture des pays baltes qui a disparu, c'est les juifs, la population juive, puisque donc durant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des juifs des pays baltes ont été exterminés. Là aussi, comment vous positionnez-vous par rapport à cette mémoire-là?
Tout d'abord, nous comprenons et nous parlons de gens qui étaient nos citoyens. C'était pas des gens différents, comme par exemple autres que lituaniens. C'était nos citoyens de nos pays. Et nous comprenons cette situation, nous comprenons la grande tragédie qui s'est produite. Nous faisons beaucoup de choses pour tenter de nous souvenir des choses correctement et que la société aussi comprenne les choses correctement. Et cette question, par comparaison avec ce que fait la Russie, c'est une planète différente. Ce sont des mondes différents. Donc ça signifie que en histoire, au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses horribles. Mais la question, c'est comment est-ce que nous comprenons ces choses-là? Comment nous pensons ou nous voulons être sains de cette histoire et de ses conséquences? Il est important de comprendre ces leçons. Mais c'est une situation totalement différente. Et bien sûr, ce régime nazi, comme je l'ai mentionné précédemment et au début de cette interview, c'est un problème qui est résolu. Il faut se souvenir des choses. Il faut parler de ces choses-là. Il faut comprendre ce qui s'est passé.
Mais
si nous voulons comprendre ce que fait la Russie, les plus grands problèmes sont en attente, ils ne sont pas terminés.
Il y a cette saison de la Lituanie en France qui est prévue du 12 septembre au 12 décembre prochain, qui est un événement particulièrement important. Je rappelle, Simona Skerris, que vous êtes ministre lituanien de la culture. Comment l'envisagez-vous? À quoi sert-elle?
Je pense que cette saison est très importante. Bien sûr, il y aura des événements avec une réflexion sur ce qui se passe dans notre monde en paix. La Lituanie, c'est un pays. Nous sommes plus grands et plus optimistes lorsqu'on parle de la vision au sein de l'Union européenne. Plus de 90% de notre population a une vision très positive des valeurs européennes et de l'Union européenne. Il est très important que les dirigeants de l'Union européenne et de la France, dans ce cas précis, pensent à cette collaboration avec ces pays, avec la Lituanie, est quelque chose d'utile. La France a un effet très important pour l'avenir de l'Europe. Mais les pays baltiques, la Lituanie, nous sommes très optimistes, nous avons beaucoup d'énergie et nous avons beaucoup d'expérience sur ce qui se passe avec la Russie. Donc cette combinaison est très importante, a du sens et pourra avoir de très bons résultats. Et que je vois qu'il y aura plus de 200 événements en 3 mois à travers toute la France, pas seulement à Paris et dans beaucoup d'autres endroits. Lorsque je vois quasiment 20 débats politiques sur des sujets basés sur la démocratie, sur l'environnement, etc. Donc je pense, et ça pourra être très utile, pas seulement pour la Lituanie, pour montrer nos artistes, etc., mais aussi ça pourrait être une redécouverte du processus pour les Français. Et le résultat, c'est que nous nous sentirons plus européens. Et j'ai de grands espoirs de voir toutes ces choses qui vont se produire dans la réalité et comprendre aussi que nous sommes beaucoup plus proches que nous ne pensons pour l'instant. Et ce sera le message principal pendant cette saison en France.
Emilia Pounzioute-Gallois, il va être aussi l'occasion de découvrir les liens de proximité qu'il y a entre la culture lituanienne et des artistes bien connus en France, des artistes français. Alors ça va d'Oscar Miloche à Romain Gary, par exemple.
Oui, et je crois que cette saison va servir aussi pour découvrir cette culture lituanienne qui est finalement très riche. Donc au-delà des choses géopolitiques et historiques, c'est un pays jeune, un pays très dynamique. Si vous voyez le dernier sondage sur le bonheur dans le monde, la jeunesse lituanienne est la plus heureuse du monde récemment. Donc c'est vraiment l'Europe, la liberté nous a ouvert les opportunités. Donc l'idée, c'est de développer notre business, science, être dans l'innovation, mais aussi faire briller notre culture aussi de manière internationale. Et il faut rappeler qu'il y a des artistes très connus maintenant en Europe et mondialement. Par exemple, la compositrice La Pellite, qui a, avec ses collègues, gagné le Lion d'Or à la Biennale de Venise il y a quelques années avec l'opéra La Mer et le Soleil, qui a passé à Paris il n'y a pas longtemps. Il y a Mirga Grajini-Tatila, la conductrice d'orchestre qui est très connue. Musa Robatsky était la pianiste, les cinéastes comme Jonas Mekas, les écrivains comme Richard Asgavel et Schema, qui ont été traduits en français il n'y a pas longtemps. Voilà, le cinéma, la Lituanie est très dynamique en ce moment pour la coproduction des films avec aussi des compagnies étrangères, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que la Lituanie peut offrir aussi du point de vue culturel aujourd'hui en Europe et créer cette culture commune avec les Européens, avec les Français.
Simona Skéris, un mot de conclusion. On a bien compris que pour vous, l'Europe, c'était une sorte de nécessité existentielle, c'était une prise de position politique. Bref, et alors même qu'en France, parfois, on a l'impression que c'est un mot usé, pour vous, c'est quelque chose de très vivant.
Yeah,
Pour comprendre mon point de vue, nous pouvons avoir beaucoup de débats, mais le fait est que l'Europe est plus unie que jamais. Si vous regardez l'histoire, la longue histoire et le passé, la France est un des leaders de cette unité européenne. Les Lituaniens, la Lituanie, comme il vient d'être mentionné, notre jeunesse est quasiment la plus heureuse du monde quand vous regardez ces recherches et ces publications, ces enquêtes. La Lituanie est très optimiste quand on parle de l'avenir de l'Union européenne. Je pense que c'est un bon mélange, une bonne combinaison de parler de cela entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'artistes contemporains, nos institutions, et je pense que notre tâche avec nos amis français d'établir, d'organiser cette saison, pas simplement sur une période de 3 mois, mais ce qui se produira ensuite, quelle coopération on peut établir pour avoir une meilleure coopération à l'avenir. Donc je suis très positif de ce point de vue, et je pense que nous passerons un excellent moment pour parler de la culture de nos pays et d'une Europe plus forte et de
Merci
la paix dans le monde.
Merci beaucoup, Simonas Kéris, ministre lituanien de la culture, qui a été traduit ici même par Maître Zlotowski en personne. Merci, Emilia Punziute-Gallois. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse à l'université Viutotas Magnus, enseignante à Sciences Po.